dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Moi, tout mon travail, je crois, c'est de me situer entre terre et ciel. Avoir les pieds bien ancrés, mais de manière à pouvoir parler à quelque chose de plus grand. Mais si je n'avais pas cet ancrage-là, campagnard et paysan, je pense que ce ne serait pas la même chose du tout au plateau. Je ne crois pas qu'on mente. On croit à 100% à ce que l'on fait. On joue à mentir vrai. On t'expose une histoire, on te raconte une histoire. De cette histoire, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux, elle t'appartient. Mais il n'y a pas de message à faire passer, on n'est pas là pour filer des réponses, on n'est pas là pour dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser. Surtout pas, je pense que par ailleurs les médias le font très bien. Donc c'est pas notre rôle, c'est pas du tout notre rôle.
De Thomas Pouget, on pourrait en parler en citant des dates, ou des lieux, ou bien des rencontres.
À Dissonance, nous préférons tout d'abord vous le faire connaître à travers ses éclats de rire et ses réflexions portées par sa voix grave et chaude.
Né en 1990, à Mende, en Lozère, Thomas Pouget a très jeune eu la passion du théâtre. Passé par Avignon, dans l'ombre tutélaire de Jean Villard, il devient comédien, puis scénariste, metteur en scène, directeur de compagnie et professeur de théâtre.
Des casquettes multiples, mais une seule boussole, celle de la sincérité, tout en suivant les chemins de traverse et en creusant son sillon, sur un plateau comme dans la vie, avec une fidélité rare à ce qu'il nomme, non sans tendresse, les gens de peu.
Dans Vacarme, une de ses récentes créations saluée par le Canard Enchaîné comme très actuelle et que Télérama a qualifiée de « dotée d'une force bouleversante », Thomas donne la parole aux paysans, à ceux dont le quotidien est une lutte, une poésie discrète. Sa méthode de travail, l'enquête et l'écoute, pour être au plus près de l'histoire qu'il va raconter, toujours avec justesse.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question de théâtre vivant, enraciné et ouvert sur le monde, mais aussi de transmission, d'espoir et de doute de ceux qui aident à avancer.
Thomas Pouget est un homme d'aujourd'hui, de ceux dont le regard et les mots vous suivent longtemps après la dernière réplique. Un créateur, oui, mais surtout un homme de lien. De lien entre les mots et la terre, de lien entre le théâtre et la vie. Les pieds sur terre.
Avec Thomas Pouget, comédien.
Sur Dissonance. Salut Thomas.
Salut Joseph, bonjour.
J'aimerais savoir comment on ressent le passage d'une ferme du Causse de Sauveterre aux planches de Seine d'Avignon, travailler avec Olivier Py. Enfin.
Ah oui, ça attaque fort.
Ça attaque fort. Il était une fois.
Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Toutes les histoires commencent à peu près pareil. Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que ça se passe? Plutôt bien, puisque j'en suis plutôt très heureux aujourd'hui d'être parti finalement de rien en termes de compagnie et puis d'arriver aujourd'hui à ce qu'on tourne autant de fois le spectacle sur l'agriculture, autant de fois le spectacle sur le passage de l'enfance à l'adolescence, sur des lectures, sur des interventions. Donc ça se passe bien. Après, avec du recul, ça n'a pas toujours été facile. Je pense qu'il a fallu beaucoup, 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 je redis encore une fois, beaucoup de travail, d'acharnement, de passion et d'envie pour en arriver là.
Et les prédispositions au départ. Donc tu es issu d'une famille d'agriculteurs cossonards.
Ouais. Oui, je suis originaire d'une famille de paysans sur le Causse de Sauveterre. En Lozère, et pour le coup, les prédispositions, il n'y en avait pas tellement, quoi. Si ce n'est que, petit, moi j'aimais beaucoup la lecture à voix haute, j'aimais vraiment passionnément ça.
Ta grand-mère.
Ma grand-mère, naturellement, ma grand-mère, dont je parle beaucoup, ma tante aussi, Je pense qu'elles m'ont donné à la fois le goût de la lecture et à la fois le goût des mots. Moi, je me souviens d'avoir appris mes poésies avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Et je me souviens qu'on y prenait tellement de plaisir. Je me souviens qu'elle mimait certaines phrases, mais pour que ça rentre mieux aussi en termes de mémoire. Et je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup ancré le fait que lorsqu'il fallait passer au tableau pour réciter sa poésie, il y avait régulièrement des 20 sur 20, parce que je la savais par cœur, parce que j'y mettais le ton, parce que
Prenez
j'y
plaisir.
prenais beaucoup de plaisir de restituer ces moments-là qu'on avait passés ensemble avec ma grand-mère. Ouais. Et puis après, situation et schéma plutôt classique, mais mes parents n'ont pas voulu dans un premier temps que je fasse ce métier-là. Je pense plus par ignorance de ce que pouvait être ce métier et par amour en même temps, parce que je pense qu'il y avait une façon de me préserver de ce que pouvait être ce métier-là aussi, d'incertitude, d'instabilité. Donc on s'est posé un défi, ils m'ont dit tu fais des études supérieures et après on te fout la paix. J'ai fait des études supérieures conjointement à un conservatoire de théâtre. C'est là où j'ai eu de la chance. Donc la journée, j'allais en cours au BTS de communication. Et le soir, je filais au conservatoire. Et j'ai toujours après suivi ce double cursus. Ensuite, j'ai fait une licence art du spectacle à Besançon et en même temps un conservatoire. Et puis une fois que j'avais mes études supérieures, Besançon était une évidence. Et après, je suis parti à Avignon. Il se trouve que j'ai joué... D'un certain hasard, et en même temps j'ai su peut-être le provoquer, mais Olivier Py arrivait à ce moment-là à la tête du Festival d'Avignon. Un stage était proposé entre le Conservatoire et le Festival d'Avignon. J'ai postulé, j'ai été pris. J'ai passé un SMS à Olivier à la fin du stage en lui disant que j'avais beaucoup apprécié travailler avec lui, que s'il cherchait quelqu'un en tant qu'assistant ou comédien, j'étais preneur. Il m'a renvoyé un message 30 secondes après en me disant « Est-ce que assistant metteur en scène sur la prochaine création, ça te plairait ?» J'ai dit oui. Il y a eu cette expérience-là, mais très vite, moi, je me suis aperçu que c'est pas mon milieu. Enfin, je veux dire, je viens de la terre, et le théâtre, il faut arriver à s'adresser à quelque chose, je crois, de plus haut, qui est le ciel. Et moi, tout mon travail, je crois, c'est de me situer entre terre et ciel. Avoir les pieds bien ancrés, mais de manière à pouvoir parler à quelque chose de plus grand. Mais si j'avais pas cet ancrage-là, campagnard et paysan, je pense que ça serait pas la même chose du tout au plateau.
Tu te considères pas quand même comme un transfuge de classe, tu veux passer du monde agricole à côtoyer ce monde-là.
Moi, ce que j'entends derrière le transfuge de classe, c'est émancipation, etc. L'agriculture et la culture ont quand même en commun la culture. Donc il y avait ça. Après, concrètement, nous petits, j'ai pas le souvenir que mes parents nous amenaient beaucoup au spectacle vivant. Je pense plus par des contraintes de temps, en fait, puisqu'il fallait traire le matin, traire le soir, donc il n'y avait pas le temps. Et puis après, je crois que c'était pas vraiment dans la culture familiale. Moi, je me souviens, une des premières pièces que j'ai vues, c'était à Mende, je crois que j'étais au collège. C'était le mariage de Figaro, et j'avais trouvé ça incroyable. Parce que c'était sensible, parce que c'était drôle, parce que je vibrais avec les comédiens sur le plateau en me disant, mais c'est fou, cet amour-là qui est transcendé, qui est partagé avec le public. Et en même temps, moi j'ai des souvenirs très précis d'un acteur faisant semblant de se prendre une porte en pleine tête. Et je me souviens m'être bidonné. Donc je sais pas, transfuge de classe, non, mais c'est sûr je pense qu'il a fallu s'émanciper de certaines choses. Ouais, il a fallu ouvrir, il a fallu comprendre quel était ce milieu-là que je connaissais pas du tout.
Et le fait d'avoir les deux pieds ancrés sur terre te permet d'aborder autrement ce milieu, cette culture.
J'espère, disons que de par mon expérience et voyant que de toute façon la culture pour beaucoup de gens, notamment en campagne, c'est pas une évidence. C'est pas du tout une évidence. On a peur de pas avoir les codes. On a peur que ça soit pas fait pour nous. Et moi, le premier cours de théâtre dans lequel j'ai débarqué, j'y allais plus pour vaincre ma timidité et mon mal-être, plus que par réelle croyance envers ce que pouvait représenter le théâtre et ce que ça pouvait apporter. Donc je pense que mon parcours, d'avoir ces deux pieds sur terre, de pas venir de ce milieu-là, ça m'oblige à penser peut-être davantage, et encore je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire, mais ça m'oblige en tout cas moi à penser au public, à me dire pour qui je le fais, au service de qui j'ai envie de mettre mon art, ce qui est le propre de l'artisan, mais quelle cause j'ai envie de défendre et comment j'ai envie de le faire. Ça, c'est très clair, je pense que ça a manqué. A contrario de certaines compagnies avec lesquelles j'ai pu tourner à Avignon ou ailleurs, où pour le coup, c'est plutôt. J'ai ressenti presque des fois de l'entre-soi, et moi, je sais que c'est pas du tout mon truc, quoi. Et la Cour d'honneur, c'était très bien pour ça, hein. C'était génial, c'est prestigieux, il y a l'héritage de Jean Vilar. C'était magnifique, mais je sais que une fois ça dépassé, j'en avais parlé à Olivier Py, de me dire, mais je comprends pas trop cette histoire de festival qui se veut être populaire, mais en fait qui finalement rassemble quand même une certaine caste,
Une élite.
une certaine élite, une certaine bourgeoisie d'une certaine façon. Et je dis, mais c'est. Moi, je crois que j'ai pas envie. Je ne dis pas que je le ferai. Que je ne le referai pas, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on y va. Et là, pour le coup, j'étais dans une compagnie qui m'embauchait, donc ça faisait très bien mon affaire. Mais moi, ça m'oblige de me poser la question en tant que directeur de compagnie, de me dire pour quel public j'ai envie de travailler. Et c'est très clair que le public pour lequel j'ai envie de travailler, c'est principalement celui des campagnes. Et j'essaye de pas opposer les modèles. Ça ne nous empêche pas de jouer dans des centres dramatiques nationaux, des scènes nationales, des centres culturels de rencontres comme Racine-Vanès. Ça ne nous empêche pas de jouer dans des fermes, dans des champs, dans des Emmaüs, dans des jardins de cocagne. Mais du coup, l'attention, elle se porte envers tous les publics. C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de. Je parle beaucoup, pardon.
Non, non, c'est
Mais
très bien.
en ce moment, je suis en train de lire un livre de Jean Vilar qui arrive. En fait, c'est un condensé de tout ce qu'il a écrit entre ses débuts et puis sa fin. Et ça s'appelle Jean Vilar. Et le bouquin exact, c'est Le théâtre service public. Et quand on lui pose la question de pour qui, et lui, il dit pour tous, point. Et il n'en faut pas plus. Et il n'oppose pas les publics. Et moi, c'est quelque chose qui me semble primordial. On touche de l'argent public, on est une compagnie subventionnée par le département, par la DRAC, par la région, par d'autres institutions. Moi, je touche de l'argent public. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent au théâtre, je me dois d'avoir une attention pour eux, d'une certaine façon, pour qu'ils retrouvent aussi l'argent qu'ils ont placé, pour que les places au théâtre ne coûtent pas 60 euros, mais coûtent 15 euros. C'est la chance du service public. Donc, moi, j'y suis sensible et on va jouer autant dans des maisons de retraite, que des foyers de vie, que là, la semaine prochaine, on est à Aurillac, on va au centre pénitentiaire, à la maison d'arrêt, on fait des médiathèques, enfin, on essaye d'aller partout, 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 et de ne pas opposer les publics, surtout pas opposer les publics.
Les pieds sur terre.
Avec Thomas Pouget, comédien.
Sur Dissonance. Comment tu es passé de la mise en scène, puisque à Avignon tu faisais de la mise en scène.
De l'assistanat,
créer une compagnie.
En fait, le désir de créer la compagnie, il est né parce que lorsqu'on est comédien, simplement, pour aller vite, mais on est soumis à un désir qui est celui des metteurs en scène, des réalisateurs. On attend que notre téléphone sonne en disant « Est-ce qu'on veut bien de moi? Est-ce que je suis désiré? Est-ce que les gens ont envie de travailler avec moi ?» Je suis un garçon plutôt impatient, on va dire, même si je travaille, à force de psychanalyse. Mais je suis plutôt impatient, donc... Moi, attendre que mon téléphone sonne, ça fait pas mon affaire. Mais alors, pas du tout. Donc, j'ai décidé de prendre, métaphore agricole, le taureau par les cornes, en me disant, ben, si je veux me soustraire à ce désir-là, la meilleure chose à faire, c'est de créer ma propre compagnie et au moins d'être maître des projets que je veux proposer.
Tu as fait ça très jeune, cette envie de créer cette compagnie. T'avais quel âge?
J'avais 24 ans, ouais. Oui. Oui, bon, après, jeune. Oui, d'une certaine façon, c'était jeune, allez, je le concède. Et on va bientôt fêter les 10 ans. Donc, c'est plutôt très chouette. Après, ça ne s'est pas fait sans heurts, ça s'est pas fait en toute tranquillité, ça, c'est certain.
Et une compagnie qui allait jouer tes textes?
Mes textes, non, parce que, enfin, à l'époque, être directeur de compagnie, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, c'est à la fois travailler sur le management des équipes, puisque ben, on sait bien qu'il y a un metteur en scène, mais il y a des comédiens, il y a des chargés de production, de diffusion, il y a des auteurs, il y a des régisseurs techniques, enfin, il y a plein de monde qui gravite autour d'un directeur de compagnie ou d'un metteur en scène. Mais il y a aussi, par exemple, travailler sur la production, sur la diffusion, sur les budgets, sur concevoir les projets, c'est partir en tournée, c'est organiser la tournée, c'est vendre des dates. Donc en fait, c'est pas, on se tourne pas à l'épouse, quoi. C'est pas ça du tout. Moi, ce désir-là, je l'ai eu parce que je crois que j'ai toujours eu envie de fédérer des gens autour d'une cause. Ça me semblait être pertinent, d'être juste. Je sais pas comment. C'est marrant, c'est ce qu'on a en commun des fois avec le milieu paysan. Quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils se lèvent tous les jours, on sait que c'est compliqué et pourtant ça ne les empêche pas de se lever et d'avoir la foi. Nous, c'est la même chose. On sent que c'est dans les tripes et on sait qu'on est au bon endroit. C'est un truc un peu mystérieux quand même. Mais la mise en scène, voilà, il y avait ce désir-là de me soustraire au désir, d'être porteur de mes projets. Et comme tu le dis, bah, quoi de plus beau que de se dire « moi j'ai envie de parler de cette thématique-là ». Et du coup, comment est-ce qu'on le fait? On part de zéro et on finit avec un spectacle qui dépassera sans trop de difficultés les 100 dates. Je trouve ça beau. En tout cas, moi, je décide de mettre mon énergie pour cette cause-là.
Quand tu parles de thématique, ça regroupe quoi? La liberté, l'expression, la poésie des mots, le pouvoir de la parole?
Ouais, je pense que ce sont des thématiques universelles. Pour répondre encore plus précisément à ta question précédente, c'est que les Grecs, finalement, quand ils faisaient du théâtre il y a 2000 ans, ils le faisaient pour la cité, ce qu'à l'époque on appelait la cité, qu'aujourd'hui on appelle la société, ce qui n'est pas la même chose du tout en termes de conception. Eux, quand ils le faisaient, d'abord, il y avait une obligation d'aller au théâtre, c'était une obligation d'aller réfléchir collectivement. Et pour le coup, le théâtre proposait de réfléchir autour de grands sujets philosophiques, donc il y avait cette dimension de réflexion et d'émotion. Pour aller très très vite, les Romains sont arrivés derrière, et ils ont dit, bah, écoutez, du pain et des jeux, c'est pas mal aussi quand même. Donc ça s'est un peu travesti, cette idée de réflexion. Moi, je suis évidemment plutôt du côté grec. J'ai plutôt envie de me dire, prenons des causes universelles, donc ce que tu dis, la liberté, mais parler de ce que c'est que le patriarcat, de parler de ce que c'est que la place des femmes, aujourd'hui on est en plein dedans, parler de ce que c'est que consommer, de ce que c'est que produire, de ce que c'est que, plus grossièrement, et en même temps plus particulièrement, de ce que c'est être. On sait qu'on a chacun 80, 90 ans à vivre sur cette terre. On sait qu'a priori, la vie, on n'en a qu'une. Comment est-ce qu'on choisit d'être et comment est-ce qu'on choisit d'habiter le monde? Comment est-ce qu'on... Qui on veut être, précisément? Je pense que c'est des thématiques qui restent universelles parce qu'on se pose fatalement toutes et tous ces questions-là. Comment passer à travers? Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti? Donc ces thématiques-là, ouais, elles sont récurrentes. Je veux dire, je crois que globalement, en 2024, en termes de réflexion, je ne suis pas sûr qu'on invente grand-chose, en fait. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont là depuis 2000, 3000 ans. Et qui, enfin, le rapport à la liberté, la soumission, on est dedans. Le rapport au père, on n'invente rien. Le rapport à la mère, on n'invente rien. Le rapport à la famille, on n'invente rien. Mais nous, je pense que l'angle par lequel on le prend, c'est de se dire, tiens, comme une loupe, voyons en ce moment comment ça se passe pour tel sujet. Et là, pour le coup, vacarme, c'est sur le milieu paysan. Passage sur l'adolescence, et le prochain, ce sera questionner le périurbain, quoi. Notamment la classe moyenne.
Une spécificité aussi de la joie errante, c'est tout le travail d'enquête qu'il y a en amont. Tout le monde ne fait pas ça?
Non.
Explique-nous cette démarche, et me paraît intéressante et passionnante.
Oui. Heureusement que tout le monde ne fait pas ça, sinon on serait trop nombreux. Non, mais... Je pense que ça tient à mon histoire et à ma façon d'être, c'est que Moi, je le disais, je suis fils de paysan, mais déjà, je suis pas sûr que mon histoire intéresse beaucoup les gens. Mais par ailleurs, voir comment la petite histoire peut parler à la grande, ça m'intéresse. Donc, pour des questions de légitimité, je pense avant toute chose, quand on crée à partir de témoignages, interviews, anecdotes, vacarme, il y a eu 150 personnes interrogées, au passage, il y en a un peu moins, la prochaine, il y en aura un peu moins aussi. Mais globalement, tous ces témoignages-là, ils nous apportent une réalité du terrain. Après, nous, on sait très bien que la fiction, c'est la réalité avec un pas de côté. Mais au moins, on a une base solide sur laquelle se construire. Donc, quand on fait des témoignages, des interviews, des anecdotes, ben, on prend un petit bout d'histoire à telle personne ou une phrase clé qui nous dit, on la mêle à une autre histoire et au fur et à mesure, on construit une histoire avec François Perrache, qui est l'auteur de Vacarme et de La Prochaine Création. On construit, on conçoit une histoire qui nous paraît être la plus juste possible au regard de l'ensemble de ces histoires qu'on a collectées.
Vous vous permettez une part de fiction, une part d'imaginaire ?
Oui, oui, bien sûr. Elle est primordiale. François écrit tout un prologue dans Vacarme où ça ne raconte pas d'histoire précisément réelle. Mais c'est comment est-ce qu'on en vient à faire du théâtre. Il nous faut un personnage principal. Bah, tiens, ce sera toi. Qu'est-ce que tu veux être ? Le personnage dit exploitant agricole, exploitant, vraiment ? Ouais, un beau métier, mais vilain mot. Bon, agriculteur, ok, c'est mieux. Paysan, là, c'est de la fierté. Ok, on achète.
Il me faut un métier. Je serai exploitant agricole.
Exploitant. Beau métier, vilain mot.
Agriculteur ?
C'est mieux.
Paysan.
Enfin, un peu de modestie.
Au contraire, c'est de la fierté.
Je serai paysan, comme mon père, comme mon grand-père.
Il fait quoi, ton père ? Mon père, il est paysan.
Mais ça, pour le coup, c'est pas une histoire réelle. C'est du dialogue, c'est du théâtre, et on arrive à le mêler à une partie plus fictionnelle. Et à des fois des parties plus didactiques, plus conférencières sur comment ça se déroule.
Pour nous, tu me fais penser à la phrase d'Aragon qui dit « Je fais du mentir vrai ».
C'est exactement ça. Ben ouais, c'est des questions qui reviennent des fois quand on intervient dans les écoles où ils disent « Mais votre métier, c'est de mentir ». Et je dis « Mais non, je crois pas. Je crois pas qu'on mente.
Non.
On croit à 100% à ce que l'on fait. On joue à mentir vrai. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez mystérieux, parce qu'on défend des fois des super-héros du quotidien, on défend des, à contrario des fois des salauds, mais l'idée c'est de se dire que tout ça est très complexe.
Toujours ouais,
très
vous complexe. Magnifiez les petites gens quand même. Enfin, j'ai pas vu les autres pièces, mais...
Si, si, bah, moi je tiens à cette chose-là, mais ça part du principe aussi que chacun et chacune, on a une histoire. Quand on est parti interviewer, interroger des agriculteurs, ou agricultrices, inséminateurs, vétérinaires, etc., il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais vous savez, moi je sais pas si mon histoire elle va intéresser beaucoup les gens, hein.
C'est
justement au bout d'une heure et demie de monologue, ils finissent en disant « Je ne sais pas si ça va vous être bien utile ». Et en fait, on a tout pendant une heure et demie. On a les grandes joies, on a les moments difficiles, on a les amours contrariés, on a les amours sublimes, on a les enfants, on a la transmission, on a le poids de l'héritage, on a le poids du père, on a au contraire le souci des enfants. On a tout ça qui reste très universel. Et donc, c'est toujours très touchant de voir des gens qui pensent que leur histoire n'est pas légitime. Et ce sont, oui, ce que tu n'as pas appelé, je pense, les petites gens, mais qui sont pour moi justement les grandes personnes, quoi. C'est elles qui sont inspirantes. Moi, quelqu'un qui, pour le coup, est impénétrable, où je ne vois pas de faille, où je ne vois pas de secret, où je vois tout très polissé, moi, très vite, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, quoi. Enfin, je ne vois pas la faille. Je ne vois pas l'humanité, en fait, derrière. Donc, bah ouais, c'est un peu terrible, mais c'est ce qui m'amène à dire que peut-être on fera pas de spectacle sur les politiques. Pas tous. Enfin, en tout cas, pas les grands.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli. E poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy don jour. Tadadadam, tadadadam, tadadadadadadadam, tadadadadadadadam, la comédie don jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. la comédie. La la, la la.
Les pieds sur terre.
Avec Thomas Pouget, comédien.
Sur Dissonance. Enfin, vacarme, je l'ai trouvé très politique au sens noble du terme. Pas partisan de quoi que ce soit, mais politique dans le sens où tu donnes le micro à des gens qu'on n'entend jamais, quoi. Ça, c'est politique.
Ouais, ouais, parce que c'est... Et en plus, on le dit dès le début du spectacle, c'est... on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour poser des questions. C'est politique parce que, bah, encore une fois, c'est ma façon de considérer le théâtre, mais je crache pas sur les gens qui vont voir des spectacles drôles, où ils se bidonnent sur du one-man show, etc. Moi, c'est pas mon théâtre. Et j'essaye de ne pas opposer le fait de réfléchir et de s'émouvoir. Pour moi, les deux doivent s'alimenter. Et j'entends que les temps sont moroses, j'entends que c'est très compliqué, que c'est dur, qu'on a envie de rire, de changer les idées, bien sûr.
Mais c'est pour ça que tu as appelé la compagnie La Joie Errante, alors ?
Oui, 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 bien sûr, pour ne pas oublier cette chose-là. Mais j'ai l'impression que la réflexion et l'émotion, ce ne sont pas deux choses contradictoires, déjà. Et dans une société qui est justement morose, je crois qu'on se doit d'être vaillant, de tenir et de combattre cette morosité. Si on la combat qu'avec du rire, je ne vois pas comment on fait avancer les choses. Si par contre on y met de la réflexion en disant « Ok, analysons », l'idée, ce n'est pas simplement de dévoiler un sujet, c'est d'inviter à mieux voir, d'avoir plus d'empathie pour les personnages, de trouver certaines situations très drôles, parce qu'il y a des situations très drôles dans notre quotidien, mais de le faire, oui, avec joie errante, et d'essayer d'être partout. Voilà. Et puis, c'est à la fois un mantra pour moi, et à la fois une leçon de vie, un rappel, c'est de me dire lâche pas cette joie avec laquelle tu fais le théâtre. Et c'est une métaphore aussi, hein. Ça ne veut pas dire ne pas aborder des choses graves, mais c'est de le faire toujours avec joie, avec conviction, au service d'eux.
Est-ce que tes parents, tes racines, ta grand-mère, tes tantes réalisent ta démarche en voyant ce que tu fais ?
C'est une bonne question, je pense que c'est à eux qu'il faudrait demander. Mais globalement, de ce que je sais, ma grand-mère me le dit régulièrement, ma tante aussi, on en discute. Mes parents aussi, je pense, comprennent. Après, je pense qu'il y a des fois un peu d'amour qui traîne par là et de soucis, de dire « mais tu veux pas faire un spectacle drôle, quoi ?» Mon père, c'est un truc qui me rappelle souvent, où il me dit « mais... tu veux pas faire la prochaine fois un truc un peu plus drôle ?» Je dis « mais moi, ça, c'est pas mon truc, quoi. » Et en même temps, vacarme, pour moi, n'est pas triste. Et passage n'est pas triste. Il y a des moments où les gens rient. On a des crises de rire. On a eu des crises de rire autant sur vacarme que sur passage.
Le 11.
Impossible.
On a deux cartons pleins, apparemment. Ne démarquez pas tout de suite. On vérifie d'abord.
C'était impossible. Il avait fallu que le vieux Guy Borin fasse aussi un carton plein. 7, 9, 11, 13.
Enfin, c'est comme la vie, quoi. Je sais pas si la vie est une comédie ou un drame. Je répète souvent ça, mais... Et je sais pas si la pièce est une comédie ou un drame. C'est la réalité, avec un pas de côté. Donc... C'est complexe. Le personnage principal dans Vacarme, Pierre, il a des grands moments de joie, des moments de désespoir, il y a des moments où ça va mieux, il y a des fois où il tient, il y a des fois c'est plus compliqué, mais c'est comme dans nos vies. Enfin, le théâtre est là pour ça, juste pour tendre un miroir.
Tendre un miroir et se poser des questions. Et tu en suscites beaucoup, enfin, les pièces. Quand tu as commencé à créer cette compagnie, donc tu avais déjà le but, l'objectif, et tu as réussi à fédérer autour de ça un auteur, des comédiens qui était d'accord avec cette démarche ?
Oui, ouais, complètement. Moi, je bosse presque des fois à contrario de certaines compagnies qui prennent des comédiens et qui disent ils servent le texte ou ils servent la compagnie. Moi, ce n'est pas trop ma philosophie de vie. Moi, j'ai envie plutôt de travailler avec des gens où, pour la plupart, on est amis, vraiment amis. Et les amis, je sais à quel point c'est différent d'un copain. Là, ce sont des amis. Et pour le coup, c'est ça aussi... un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien mais qui vous aime quand même. Voilà, donc on sait que c'est pas tout rose, on sait que c'est pas tous les jours facile, mais ça empêche pas. Au moins on partage la base, le ciment, c'est une amitié. Et là-dessus, on peut construire une relation de travail. Ce qui nous empêche pas, et au contraire, à mon avis, qui s'additionne, c'est que lorsqu'on est en tournée, on peut aller manger ensemble, on peut aller boire des coups ensemble, mais on n'est pas chacun à se dire allez, on rentre. Chacun dans nos chambres d'hôtel, et puis demain, on remet ça pour le boulot. C'est pas les mêmes aventures spirituelles non plus. Donc ouais, il y a eu un auteur, il y a eu François Perrache, il y a eu Sylvain Lecomte, qui était là quand même très rapidement au début, Grégoire Lustradic, et puis après Séverine Combe, Bastien Labi, enfin il y en a, on est quelques-uns.
Et pour rentrer un petit peu à l'intérieur, comment vous travaillez? C'est-à-dire une fois que vous avez fait toutes ces 150 enquêtes, vous posez le matériel sur une table, tous, les comédiens, le metteur en scène et celui qui va écrire?
Pour le coup, le témoignage, on l'a beaucoup fait avec les comédiens, mais ensuite on l'a fait aussi avec François, parce que moi je tenais à ce qu'en tant qu'auteur, il vienne voir ce que c'était aussi sur le terrain, même si François en fait connaît le milieu paysan, parce que notamment son copain est fils de paysan. Donc en fait, il est évidemment concerné par la chose. Et après, une fois qu'on a tous ces témoignages-là, se dégagent des grands thèmes. On travaille par la suite avec François sur tous les deux sur ce qu'on appelle de la dramaturgie, c'est-à-dire construire notre récit, notre fiction. On n'est pas encore au stade de l'écriture, on est vraiment au stade de qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc on choisit par exemple l'histoire de la famille Gaillard qui est représentée dans le spectacle Vacarme. On dit, ok, si on remonte sur 4 ou 5 générations, que faisaient les gens avant ? Donc tout ça est fictionnel, complètement. Mais par exemple, dans notre histoire, on s'aperçoit que Pierre hérite de la ferme par son père, qui lui-même ne l'héritait pas forcément de son père, ça crée un décalage. C'est ça qui nous intéresse. Si on choisit que, par exemple, la femme de Pierre soit, je dis n'importe quoi, agricultrice, pour le coup, on se dit, tiens, on va quand même centrer vraiment l'histoire sur la paysannerie. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on ne peut pas décaler, faire quelque chose qui serait presque paradoxal, mais que sa femme soit banquière, tiens ? Ou en tout cas qu'elle travaille dans une agence bancaire. Donc au fur et à mesure, comme ça, nous on travaille vraiment sur ce qu'on appelle la conception du projet. On lit beaucoup de livres là-dessus, donc notamment La PAC, c'est pas un livre de chevet que je recommande. Mais ça ne nous empêche pas de regarder des films, ça ne nous empêche pas d'écouter des musiques. C'est ce qu'on appelle la dramaturgie externe, c'est quelle est la matière qui gravite autour de ce sujet-là. Et après, on fait la dramaturgie interne, donc, comme je disais, sur quelle est l'histoire de la famille Gaillard, est-ce qu'on a envie d'aborder cette chose-là, suivant les thèmes qu'on a abordés lors des interviews, témoignages, etc., anecdotes, est-ce que ça revient souvent, est-ce que ça, c'est plutôt un truc à part, mais on se dit, tiens, c'est intéressant de l'aborder. Souvent, c'est ce qu'on ne nous dit pas qui est le plus intéressant, ce sont les moments de silence. On se dit, tiens, là, il n'y a pas été, il y a eu 15 secondes de blanc, donc c'est bien qu'il y a quand même un tabou, donc c'est là où des fois on va creuser. Mais en fait, le spectateur, ce qu'il voit sur une pièce de 1h35, c'est, 3%. C'est 3% du travail. C'est la partie immergée qu'il voit, mais tout ce qui est en dessous, il ne voit pas du tout. Il ne le voit pas. Ça, c'est notre tambouille interne. C'est la dramaturgie, quoi.
C'est intéressant d'avoir ce regard-là, quand même, parce qu'en tant que spectateur, on ne l'a pas, quoi. Avec l'actualité, Thomas, là, personne ne vous avait demandé de venir jouer sur un rond-point, sur une aire d'autoroute ?
Non, et je regrette qu'on ne l'ait pas fait, et ce n'est pas fini, parce que je pense que la crise est loin d'être finie. Mais on se l'est dit, il n'y a pas très très longtemps, on est parti jouer au Salon de l'Agriculture, 40 minutes du spectacle, on l'a fait 2 fois, dimanche et lundi dernier. Je regrette, au moment où ça bloquait les autoroutes, je regrette qu'on n'y soit pas allé avec la remorque, la Seine errante, c'est une remorque Seine qui se déplie, qui fait un espace de 7x6, dont on s'est équipé il y a 2 ans maintenant. Je regrette qu'on n'y ait pas été. Je regrette qu'on n'y ait pas été. Après, pour des raisons de calendrier, on ne pouvait pas, de toute façon, réunir l'équipe. Mais je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Je regrette de ne pas avoir dit aux paysans, regardez, vous n'êtes pas seuls, et le grand public s'empare de ces questions-là, à tel point qu'on représente aussi ce que vous traversez. Et voilà, soulevons ensemble cette chose-là. Mais j'aimerais arriver à ce que, qu'il y ait un point de ralliement, à ce que, pas forcément nous, attention, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'aimerais que le grand public s'empare en fait, de ces questions-là. J'aimerais beaucoup. Ça passe par de l'empathie, ça passe par beaucoup de compréhension, je crois, de discussion, d'échange.
Il s'appelait Stéphane, donc ? Il avait une 50aine d'années, 2 enfants.
Tout est vrai. On n'a changé que les prénoms.
Une histoire parmi 15 000 autres. C'était un voisin. La grosse ferme du côté des Bayargal. On les a toujours connus là, il était au syndicat avec mon père. C'est Babette qui l'a trouvé dans l'étable. C'est sa femme qui l'a décroché. Une corde, une poutre. À la fin, Stéphane perdait 300 euros par jour.
Par jour ?
Une semaine avant, il a rentré 8 stères de bois.
Du bon chêne, bien sec, bien serré. Elle a trouvé ça bizarre, Babette, qu'il fasse ça si tôt dans la saison.
Il a rangé toute la remise. Il a conduit les deux tracteurs à la révision. Il a fait l'inventaire par écrit de toutes les bêtes avec leurs numéros, sur quelles parcelles elles étaient, si elles étaient pleines ou pas. Il a mis tout ça dans une lettre qu'il a laissée sur la table de la cuisine pour Elisabeth.
Il voulait pas qu'elle voie son visage. Quand elle l'a trouvé dans l'étable, il s'était mis un sac sur la tête.
Et à la fin de la lettre, il a écrit « Je suis dans l'étable ».
Votre pièce est importante, il me semble, pour comprendre ce que c'est que la paysannerie.
Ben, c'est vrai que c'est là où c'est délicat, le milieu paysan. Et d'ailleurs, je te ferai remarquer qu'on parle de milieu paysan, mais en fait, on ne parle même pas d'agriculteur ou d'exploitant agricole. Oui, c'est qu'on aspire quand même à une certaine...
Dans ta pièce, vacarme.
Ouais, vacarme. Oui. Mais même là, entre nous, quand on en discute, oui, on parle de paysannerie. On ne parle pas d'exploitant agricole. C'est que je pense qu'on aspire à revenir à un modèle plus vertueux aussi pour eux, pour nous, pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est tellement complexe. Je pense que c'est ça qu'il faudra entendre. Hier, c'est marrant, on jouait deux scolaires et puis un jeune qui, à la fin, dit bah, « Écoutez, moi, j'ai passé vraiment un très bon moment, c'était super. Mais juste, je voulais vous dire, mais je crois que j'ai pas trop compris la morale de l'histoire et le message final. » Et c'est marrant parce qu'on lui dit « Mais je crois qu'il n'y a pas de morale.
Oui,
et je crois que je ne sais pas s'il y a un message. » On t'expose une histoire, on te raconte une histoire. De cette histoire, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux, elle t'appartient. Mais il n'y a pas de message à faire passer, on n'est pas là pour filer des réponses, on n'est pas là pour dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser. Surtout pas, je pense que par ailleurs les médias le font très bien. Donc c'est pas notre rôle, c'est pas du tout notre rôle.
Je lui ai jamais dit, mais je suis fier de mon père. Est-ce qu'on a besoin de dire à nos pères qu'on les admire et à nos mères qu'on les aime? De dire à nos mères qu'on les admire et à nos pères qu'on les aime? Mon père, il s'est battu et il se bat encore. C'est quoi ton père? Mon père, il est paysan.
Bah, moi j'ai bien aimé, c'était construit, ça aborde des sujets qui sont assez conséquents dans la société de nos jours. Et je trouve ça intéressant d'en parler et que les gens soient au courant, soient informés de tout ce qui se passe, ce que les agriculteurs font pour nous et tout ce qui va avec.
Tu es ici du monde paysan?
Non, pas spécialement, mais j'habite en Aveyron, en campagne, et j'ai plein d'amis qui le sont. Donc je suis habituée à ce monde-là. Et voilà, donc...
Et ça t'a parlé?
Ouais, plutôt, ouais. C'était pas mal, c'était bien.
Vous êtes paysan vous-même, est-ce que ça vous a parlé?
Ah ben oui, énormément. Ben, c'est sûr que ça m'a mis plein d'émotions, effectivement.
Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce?
Moi je trouve que le sujet abordé est magnifique, très, très bien abordé. Ils ont enfoncé le coup là où ça faisait mal par rapport au milieu actuellement. Ouais. Toute l'évolution de l'agriculture, quand on remonte l'exemple de 10 000 ans en arrière et qu'on est maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On se demande si on a bien fait. Moi je me demande beaucoup.
C'est vraiment, ça donne un ressenti que je trouve vraiment très réel. C'est pas exagéré, c'est pas caricaturé. Et par contre, ça fait vrai. C'est très vrai, je pense, aussi. Et après, j'ai trouvé que la mise en scène, c'était super original. Parce qu'avec quatre bricoles, je dirais, ils font un truc qui vraiment... je veux dire, ça laisse pas de vide pendant toute la pièce. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec trois chaises et quatre ampoules. Je veux dire, ça fait une pièce de deux heures où vraiment, on ne voit pas le temps passer.
Très émouvante. Alors, en étant fille de paysan, si tu veux, moi, je connais un peu les problèmes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui te prend aux tripes, quoi. Ouais, tu te dis que tu as l'impression qu'ils sont, eux, fils de paysan. Ouais.
Ce qui me paraît, c'est le mépris qu'on avait. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à 6e à Sainte-Afrique, on se faisait traiter même pas de bouc, de paysan. Et paysan, à l'époque, c'était une insulte. Ah, c'était une insulte. Et aujourd'hui, donc, 50 ou 60 ans après, grâce un peu à la cause, on a réussi à inverser les choses. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être fils de paysan et paysan. Et dans cette pièce, je trouve que ça, c'est bien,
On voit bien l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Quoi.
Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation.
Les pieds sur terre.
Avec Thomas Pouget, comédien.
Sur Dissonance. Alors il y a Vacarme, mais il y a aussi une pièce que je n'ai pas vue sur le passage de l'enfance à l'adolescence.
Ouais.
Vous en parlez, dire quelques mots.
Oui, bien sûr.
Parce qu'elle est jouée toujours, elle tourne.
Elle tourne toujours, cette pièce, et j'y tiens. Pour le coup, c'est une pièce que j'ai écrite avec François Perrache en collaborateur sur l'écriture, parce que j'avais besoin, moi, d'un regard professionnel. C'était ma première pièce. Passage, c'est né parce que cette année, ça fait 10 ans que moi je transmets le théâtre, que j'enseigne et que je suis pédagogue. J'ai passé mon diplôme d'État et j'ai vu quand même en plusieurs milliers d'heures, j'ai vu des élèves s'émanciper grâce au théâtre, j'ai vu des élèves se transformer, se métamorphoser, des élèves où parfois les professeurs me disent, vous allez voir, là, lui, il est très compliqué, lui. Là, si vous arrivez à faire quelque chose, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, il se passait toujours des choses, avec des classes réputées difficiles, et pourtant, ça fonctionnait. Donc, je crois en cette chose-là, qui est que le théâtre peut apporter des choses, et ce n'est pas le seul art, ce n'est pas la seule passion qui peut amener des choses. Donc, je trouvais cette chose-là trop belle pour qu'elle ne soit pas racontée. Et par ailleurs, c'était l'occasion, comme on l'a fait pour les paysans qu'on dit plutôt taiseux, de dire, donnons-leur la parole pour ce spectacle-là. Là, c'était l'idée de donner la parole à des enfants qu'on entend peu, en fait. On a souvent le regard des adultes qui parlent des enfants, mais jamais les enfants s'expriment directement. Donc là, pareil, ça a été du collectage auprès d'enfants d'écoles primaires, de collèges, de lycées, d'essayer de comprendre où est-ce qu'ils en étaient, suivant les âges, qu'est-ce qui leur semblait être injuste, quelles valeurs ils voulaient véhiculer, leur rapport à la liberté, ce qu'on disait sur, encore une fois, les grandes thématiques, mais sur le rapport aux grands-parents, le lien intergénérationnel. Donc en fait, ça raconte l'histoire, précisément, d'un garçon qui s'appelle Lucas. Il a 10 ans, cette année-là du spectacle. Et il rencontre pour la première fois un professeur de théâtre. Et l'idée, c'est que ce professeur de théâtre l'accompagne durant sa dernière année à l'école primaire et juste avant son entrée au collège.
Où il va continuer le théâtre.
Ah, je le souhaite.
C'est très libérateur.
Ouais. Et puis l'idée, c'est que là, c'est un premier volet. Et puis il y aura certainement
D'accord. Ça, c'est le premier volet.
C'est le premier volet de passage, mais j'aimerais bien suivre ce petit Lucas, ouais. J'aimerais bien les années collège, j'aimerais bien voir si je mets le collège et lycée ensemble, mais j'aimerais bien, qu'il traverse aussi tout un ensemble de batteries, de problèmes, de solutions, de grandes joies, de misères, etc. Mais jusqu'à, pourquoi pas à l'âge adulte, et puis un jour arriver à faire la totalité. Ce qui me plaît, moi, dans cet exercice-là, c'est que je suis seul sur scène pour jouer 15 personnages. Donc, c'est très jouissif de passer d'un personnage à l'autre.
Dans Vacarme, vous faites un peu pareil aussi.
Bien sûr. Et dans Vacarme, on est 3 acteurs pour 15 personnages. Mmh. Puis, c'est très plaisant de passer de l'un à l'autre, d'observer quotidiennement. Moi, je croise encore des gens dans la rue où je me dis, tiens, regarde comment ils marchent. Mmh. OK, ça, la main, elle est plus comme ça. Mmh. Et puis, d'essayer de rentrer dans leur corps, de savoir comment ça agit. Moi, j'adore.
Alors, je dis, c'est fabuleux à t'entendre, à te regarder. C'est dommage qu'on n'ait pas la caméra. Parce que tu joues en même temps que tu... En fait, comme dans Vacarme, tu donnes la parole aux sans-voix, à ceux qu'on entend peu.
Oui.
Hein, les gamins, ouais. Les agriculteurs.
Les classes moyennes, après.
Et alors, voilà. Je voulais en venir à cette pièce qui va se créer.
Qui va se créer en 2025. En fait, on a réfléchi avec François sur ce qu'on voulait faire. Moi, assez rapidement, je dis à François, j'aimerais bien parler des classes moyennes. En fait, de ceux, encore une fois, qu'on entend peu, qu'on n'entend pas. Mmh. Ceux qui sont juste à la tranche en se disant, juste d'avoir la crainte de passer du mauvais côté, quoi. De se dire, là, ça y est, on est en dessous, quoi. Un peu le tiers état, finalement. De se dire, vraiment, là, on touche le fond et on est à 20 euros près et c'est compliqué pour nous. Cette classe-là, on l'entend assez peu. C'est, sociologiquement, on dit que c'est celle qui fait tourner la France et qui fait vivre la France. Donc elle m'intéresse particulièrement, d'autre part parce que ce n'est pas celle qui va majoritairement au théâtre. Donc voilà, tout ça est très, très imbriqué. La réflexion, elle est venue parce que Vacarme parle des campagnes. On se dit, deuxième volet, ce serait bien de parler de quelque chose qui est juste après les campagnes, donc à savoir le périurbain, et notamment les lotissements pavillonnaires. Il y aura certainement une troisième pièce sur les villes. Ce qui nous frappe tout de suite dans le périurbain, à l'époque où on en parle, il y a déjà quand même 1 an et demi, 2 ans avec François, c'est les lotissements pavillonnaires, c'est ceux qui y habitent. Et il y a plusieurs choses. C'est d'abord déjouer des stéréotypes sur ce que Télérama a appelé pendant un temps la France moche, ce qui reste, je trouve, quand même très violent pour les gens qui y habitent. La deuxième chose qui nous anime, à ce moment-là, je parle, parce qu'après, évidemment, ça a évolué, mais la deuxième chose, c'était... Sociologiquement, pendant très longtemps, il y a 30-40 ans, les sociologues disaient, il y avait un diktat, en tout cas une phrase qui revenait souvent de « dis-moi où tu habites et je te dirai comment tu votes ». Aujourd'hui, cette question, elle est plus d'actualité. C'est plutôt « dis-moi où tu habites, je te dirai quel rapport tu veux avoir avec les autres ». Ce n'est pas les mêmes rapports du tout en ville, dans le périurbain ou dans les campagnes. Et la troisième chose, c'est que quand on prend les lotissements pavillonnaires, c'est à l'image de la société, c'est comment est-ce que dans des lieux qui se ressemblent a priori, chacun arrive à trouver sa singularité, mais c'est le seul ensemble, en fait. Mais que, pour faire rapide, les jeunes sur leurs réseaux sociaux et sur Instagram et sur Facebook, typiquement, mais plutôt sur les réseaux d'images, donc Instagram et maintenant je crois que c'est TikTok, en fait, ils aspirent à ressembler à un groupe et en même temps à trouver ce qui fait leur identité. Et on est tous soumis à cette chose-là. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un groupe et à quel moment on est singulier dans ce groupe-là ? Donc on part sur cette chose-là, on commence à s'éloigner un peu dans notre réflexion des classes moyennes, mais en fait très vite on y revient parce que tout ça est quand même très, encore une fois, imbriqué. Et là on commence à travailler sur d'autres couches qui nous intéressent, mais qui sont ceux qui y habitent, quel rapport on veut avoir avec les autres. Mais comme pour Vacarme, comme pour Passage, ce qui va nous intéresser, c'est de parler des gens qui y vivent et en fait qui vont se poser des questions du type... qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Qu'est-ce que c'est que... À partir d'une histoire très, très classique, encore une fois. L'histoire, c'est celle d'une famille centrée autour du personnage d'une femme. Elle a un frère. Elle a un époux. Les parents, pour le coup, la mère vient de décéder. Donc, classique, la mort, on y passe tous. En tout cas, s'il y a un auditeur qui dit l'inverse, qui n'hésite pas à contacter. On prend la recette. Et il faut placer le père en EHPAD. Situation classique.
Tout à fait.
Classique. Là-dessus, se jouent d'autres problèmes. C'est le lotissement familial dans lequel les parents vivaient. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Pour parler des campagnes, on parle beaucoup d'enracinement dans les campagnes. Ce sont des gens qui sont là depuis des générations et des générations. Ils sont enracinés. Quand on parle de lotissement pavillonnaire, quand on parle de périurbain, on va parler d'ancrage. C'est des gens qui jettent leur ancre, ils y repartent, ils vont la poser ailleurs, ils spéculent sur l'immobilier, 5 km plus loin, ils reviennent, ils repartent, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et notamment, donc le personnage féminin central, cette femme est à un moment de sa vie où elle souhaite s'enraciner. Et l'idée, c'est comme dans toutes les pièces de théâtre, il faut bien qu'il y ait conflit pour que ça soit intéressant. L'idée, c'est qu'à quel point un enracinement dans un lotissement pavillonnaire, ça peut se dérouler ou pas. Et évidemment, comme dans un lotissement pavillonnaire, il y a des voisins. Donc c'est l'occasion de questionner sur... parce qu'on est 6 au plateau, pour le coup. Donc c'est questionner, dans des lotissements pavillonnaires, qu'est-ce que c'est qu'une femme seule qui doit élever son enfant parce que l'époux est parti. Voilà, tout ça, c'est encore... c'est pour 2025, donc on y réfléchit quand même bien à l'avance. Mais tout ça est en train de se construire au fur et à mesure. Et moi, je trouve ça toujours très, très enivrant, quoi.
Je vais pas faire comme ton papa, mais tu mettras quelques notes d'espoir.
Bien sûr, mais c'est la vie, donc il y aura de l'espoir, il y aura de l'amour, il y aura du désespoir, il en faut, il y aura la mort, il y aura la vie, il y aura tout ça, mais parce que c'est la vie, quoi.
Merci de finir sur cette note d'espoir, cher Thomas.
Et merci beaucoup, Joseph.
Merci, Thomas.
Merci à Marjolaine Foss et à Stéphanie Peset du Centre culturel de rencontre de Sylvanès pour l'aide à la réalisation de cet entretien.
Merci aussi à Nora Tribi, directrice artistique de la MJC de Rodez, pour la mise à disposition d'un lieu d'enregistrement à l'acoustique remarquable.
Dans les extraits enregistrés en public de la pièce Vacarme, nous entendons les voix des deux comédiens qui, avec Thomas Pouget, interprètent cette pièce. Ils se nomment Sylvain Lecomte et Valentin Clerc.
Vous trouverez sur la page internet de Dissonance et de Radio Sainte-Afrique le lien pour consulter la page de la compagnie La Joie Errante. Salut
et fraternité.
En scène, avant qu'on lève le rideau, déposons là tous nos fardeaux, nos peines, et retrouvons nos oripeaux. Ils sont plus vrais que notre peau. Ils viennent faire de nous des éphémères, capables de tous les frissons, d'apprivoiser mille chimères, et puis le temps d'une chanson, d'être Arlequin ou Cléopâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, une fois le rideau levé, plus rien ne peut nous arriver. La reine, ailleurs si prête à trébucher, promène sans s'effaroucher sa traîne. Chacun de nous reprend sa place, le bègue oublie de bafouiller, le timide est rempli d'audace, le muet peut s'écosiller. C'est leur cœur qui se met en quatre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, c'est la vie, mais pas tout à fait, c'est une apparence, un reflet, à peine, comme si juste on attendait que cet instant presque parfait survienne. C'est une quête si fragile qu'un souffle peut la déranger, c'est une fée aux pieds d'argile, c'est un éclat, c'est un danger, mais c'est l'espérance opiniâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, on est le rêve du passant, de ses amours le remplaçant. On traîne un univers envahissant, dont la tendresse fait qu'on s'en souvienne. On sourit, on salue, on brille, on garde plus que de raison son diadème de pacotille, et on ramène à la maison ce pauvre moi qu'on idolâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? On sait. Le temps s'égrène au ralenti, mais l'heure petit à petit s'amène, où le dernier mot retentit, où le rideau nous engloutit, obscène. Et sans qu'au dehors on le sache, dans les coulisses on fait son deuil, avec un restant de panache, d'une existence en trompe-l'œil, d'un cœur qui s'arrête de battre. Y a-t-il une vie après le théâtre? On sait qu'il n'y aura pas de fleurs pour accompagner le silence, loin de la scène, loin du cœur, plus de musique pour la danse. On aura cessé de combattre. Y a-t-il une vie sans le théâtre?